Le service de renseignement, par définition, est une institution publique qui a pour but de fournir des informations fiables et utiles pour la sécurité de l'État et sa population. Depuis la chute du feu président Félix Patassé en 2003, le service de renseignement de Centrafrique pointe du doigt l'incompétence, la corruption et surtout le népotisme gangrène ce service. Conséquence, plusieurs exfiltrations ont été notées et des infiltrations des étrangers, des hommes armés ou encore leurs complices n'ont souvent pas été interceptées par ce service de renseignement centrafricain. À titre d'exemple, l'infiltration des Akawa, les rebelles de François Bozizé en 2003, des mercenaires de la Séléka en 2013 et le coup d'état manqué du 13 janvier dernier sont passés inaperçus des agents de renseignement. Question, que fait concrètement le service de renseignement centrafricain? Est-ce que les responsables sont à la hauteur de leur tâche ou bien y a-t-il de complicité dans la chaîne de commandement de ce service? Des éléments de réponse dans ce débat politique de Radio Ndekeluka avec nos invités. Paul Cressan Beninga, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC, docteur en sciences politiques. Monsieur Karl Blagué, bonjour.
Bonjour Armando.
Secrétaire national à la communication, porte-parole du parti Marche pour la démocratie et le salut du peuple MDSP. Et puis Monsieur Fidel Gwandika, bonjour.
Bonjour, mes salutations à la population de Nanga Bogila.
Vous êtes ministre et conseiller spécial du chef de l'État et membre du Conseil de sécurité nationale. Je suis Armando Anguindi. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, première question à vous, monsieur Karl Blagué. Quelle est l'importance, selon vous, du service de renseignement dans un pays?
Merci Armando. Je pense que la carapace d'un pays relève de ses services de renseignement. Tout ce qui permet au gouvernement de savoir ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des différents comportements humains et à l'extérieur, au niveau des pays qui l'entourent. Tout bon pays dispose de services de renseignement. Et à ce que je sache, dans la majorité des pays, les services de renseignement sont connus, leurs dirigeants sont connus, les budgets sont connus, leurs missions sont connues. Et ça fait que s'il y a cette transparence en matière de gestion des services de renseignement, ça pousse la population justement à aider ces services de renseignement. Mais quand il y a une opacité au niveau des services de renseignement, ou bien une incompréhension, ou bien un manque de communication entre les services de renseignement et la population, ça crée souvent des problèmes. Donc les services de renseignement constituent un dispositif pour assurer la sécurité et la quiétude d'un État et de la population.
La même question à vous, monsieur Paul Cressan Beninga, sur l'utilité de ce service dans un pays comme la République centrafricaine.
Je souscris entièrement à ce qui a été dit par Karl Blagué lorsqu'il définit le service de renseignement. Le renseignement, en soi, est une vieille pratique, aussi vieille que la guerre. Et on ne peut pas gagner la guerre sans avoir un service efficace, efficient et pertinent de renseignement. Et donc le service de renseignement joue un rôle fondamental. Lorsqu'on a un service de renseignement efficace, on peut ne pas arriver à la guerre. Lorsqu'on a un service de renseignement efficient et pertinent, on peut éviter la guerre parce que ça permet, si vous voulez, de déconstruire toute velléité guerrière. Alors, la question qui m'a été posée est celle de savoir quelle est l'importance d'un service de renseignement dans un pays comme le nôtre. Je ne veux pas être fondamentalement pessimiste, mais lorsqu'on regarde de plus près ce qui se passe dans notre pays depuis près de 2 ou 3 décennies, on se pose la question sur l'efficacité, sur l'efficience et la pertinence de nos services de renseignement. Et on va aller plus loin dans le débat parce que lorsqu'on va analyser ce qui se fait chez nous, il y a des problèmes qui sont d'ordre structurel, il y a des problèmes qui sont d'ordre conjoncturel et il y a des problèmes qui sont liés à la gestion des ressources humaines au sein de ces services de renseignement.
Monsieur le conseiller spécial du président de la République, vous avez écouté Monsieur Paul Cressan Beninga, Karl Blagué. Qu'en dites-vous?
Je dis que la République centrafricaine, depuis 2016, dispose d'un service efficace de renseignement dans notre pays. Si on n'avait pas ce service de renseignement, la RCA aujourd'hui n'existerait pas. Parce que, voyez-vous, Paul Cressan Beninga vient de dire que si on a un service efficace de renseignement, on peut éviter les guerres. nous avons évité le coup d'État du 13 janvier 2021 grâce à un service efficace de renseignement. Et vous dites dans votre introduction que c'est depuis que Patassé a laissé le pouvoir que le service de renseignement est en déconfiture.
Et même avant, hein, parce que...
Ouais. Je vous dis, avant, hein, la liste est longue, depuis Bokassa. Depuis Bokassa, vous avez vu les Obrou. Meya et Obrou ont fait un coup d'État presque sanguinaire à Bokassa. Et ils ont défié les services de renseignement de Bokassa, qui étaient, en tout cas, la République centrafricaine à cette époque-là, était un pays policier. Mais ils ont dû traverser la rivière. Au temps de Dako, Patassé, Bozizé et consorts ont fui le pays parce qu'ils avaient fait un coup d'État raté à Dako. Et au temps de Kolingba, c'est encore Bozizé qui a pris le large. Et j'en arrive au régime du MLPC, du Barbu National. C'est Kolingba qui a pris la tangente, hein, pour aller se réfugier quelque part après le coup d'État raté du 28 mai 2001, suivi de Bozizé qui aussi a fui pour regagner le Tchad en 2002.
Mais est-ce que cela, en fuyant le pays, ce n'est pas la persécution qu'ils étaient obligés de fuir, ou bien c'est le service de renseignement qui fait son travail?
C'était un aveu de culpabilité. Ce sont des gens qui ont fait des coups d'État et qui sont lâches. Ils ont fait un coup d'État raté. Ils devraient rester affronter la justice de leur pays. Ils ont fui comme des lâches. Et ces personnalités, hein, si je puis les qualifier de personnalités, ils ont eu des complicités. Parce que ce n'est pas des moindres gens. C'est des anciens chefs d'État. C'est des généraux. Donc
des
ils connaissent,
dirigeants, des cadres.
Ils connaissent le système de renseignement centrafrique. Voyez-vous, celui qui vient de faire la honte des partis de l'opposition, je voudrais parler de Abdou Mekassoua. Il se prenait pour un grand démocrate. Il mettait tout sur la justice. Et aujourd'hui, il a pris la poudre d'escampette. Au lieu d'affronter la justice de son pays, la justice est un élément aussi important de la démocratie.
Mais est-ce que voilà. Bon, on y reviendra pour arriver sur le cas Mekassoua. Oui, c'est ce que vous avez dit.
Je vous ai fait le tableau.
Voilà, vous avez brossé
des
brièvement.
Des gens qui ont fui le pays.
Je reste avec vous parce que vous parlez du service efficace de renseignement dans ce pays. Est-ce que de nos jours, avec ce que nous avons vu, puisque la coalition CPC était venue à l'entrée, même à la porte de Bangui, a brusqué tout le monde, est-ce que cela peut parler du service de renseignement efficace? Est-ce que là le service de renseignement fait bien son travail?
On les a accompagnés jusqu'à la porte de Bangui. Je vous parle en tant que membre permanent du Conseil de défense et de la sécurité. On les a bien surveillés avec des drones, on a des renseignements on a des services de renseignement, je ne vais pas le dire aujourd'hui, hein, dans toutes les préfectures de la République centrafricaine. On les a vus venir et puis au moment opportun, on les a mis en déroute. Hein,
je vois Paul Christian Beniga, vous répondez rapidement.
Non, j'invite le ministre Ngwandika à être un peu plus sérieux. Je me demande si M. Ngwandika et moi regardons les choses de la même manière. Sûrement pas, et ça s'explique. Et voilà. Parce qu'il défend une chapelle alors que nous parlons de la République. Je vais m'expliquer. Lorsqu'il dit... avec les faits, hein, et il est en train de traverser les faits. Lorsqu'il dit que le service de renseignement est efficace depuis 2016, c'est faux. Je lui donne quelques indications. En 2016, le président Touadéra a accédé au pouvoir. En 2017, nous avons assisté à la recrudescence de violences armées dans l'arrière-pays. En 2018, nous avons assisté à des tueries au niveau de les Mounakou. Non, les Mounakou, c'est en 2019. Le 1er mai, à Fatima. Dans la même période, je veux dire, il y avait défilé au niveau de l'avenue des martyrs. Ceux qui sont à la charge de renseignement, c'était monsieur les généraux Nassin et Ouanzé à la sécurité, Nassin au renseignement. En 2019-2020, il y avait Jima avorté à Bambari. Le ministre de la Sécurité avait conduit une mission précurseur à Bambari en vue de préparer le terrain. Si le président de la République avait décollé un peu plus tôt, peut-être il allait subir les attaques de Jima à Bambari, ça, c'était un échec. En 2020-2021, nous avons eu la CPC. Lorsqu'on nous dit ici, autour de cette table, que la CPC, on a laissé la CPC venir, ça veut dire que c'est prendre les Centrafricains pour des cons, parce que ça n'est pas le cas. Et je m'explique, on n'a pas laissé la CPC venir. La CPC allait renverser les élections de la République, n'eût été l'intervention des forces armées centrafricaines appuyées par les forces russes et rwandaises. Ce n'est pas une stratégie. On a vu comment est-ce qu'on a bataillé sur la ligne de Boali, et la ligne de Boali a été contournée par la CPC. On pensait que on allait sauter le verrou de Boali avant que la ville de Bangui ne puisse être attaquée. Ça n'est pas le cas. Et donc, à partir de ce moment, on peut parler de l'efficacité. Mais moi, je veux aller plus loin, Armando. Oui, si tu me le permets. Oui, je veux aller plus loin pour dire ceci.
C'est vous qui n'êtes pas sérieux.
Le problème du service des renseignements, c'est un problème qui est structurel. Ça n'a rien à voir avec le régime de Touadéra ou le régime de Bozé. C'est le fonctionnement en soi qui n'est pas bon. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui ne disposons pas d'une école de renseignement, qui ne forment pas en renseignement. Nous formons les gendarmes et les policiers. Quelques modules, quand vous auditez les programmes de formation de ces gendarmes et ces policiers, on leur enseigne le renseignement dans quelques modules, tout simplement. Nous n'avons pas une école. Aujourd'hui, avec le président Touadéra, qu'est-ce qu'on observe ? Nous observons qu'on envoie en Guinée et en Angola des jeunes qui sont recrutés. Et là encore, on peut revenir sur le processus de recrutement. Et faisons un clin d'œil au rapport du groupe d'experts sur la question du recrutement. Ces jeunes ont été recrutés en voyant en Guinée et en Angola. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque vous voyez le profil des gens qui travaillent au sein du service de renseignement, combien de fois des personnalités politiques qui font l'objet de filiatures ou de suivis individuels ont pu renverser la tendance, ont pu convertir les agents de renseignement? Ça témoigne de ce que, du point de vue finance, il y a un problème. Et je finis par là. Il faut que les gens sachent, le renseignement aujourd'hui s'est professionnalisé. Ce n'est pas n'importe qui fait le renseignement. Quand on parle de renseignement, on parle de la filiature.
Et donc, je finis. Non, vous avez anticipé déjà sur la question du profil. Hein. Non, continuez. Oui,
okay. Alors, le renseignement, quand on parle de renseignement, on parle de la filiature. Quand on parle du renseignement, on parle du crypto-analyse. Lorsqu'on parle de renseignement, on parle de l'évaluation des informations publiques. Ce n'est pas un agent de renseignement qui fait tout cela à la fois. Vous avez des spécialistes en crypto-analyse, vous avez des spécialistes en analyse des informations publiques.
Et tous ces différents spécialistes se retrouvent dans l'équipe de
Il n'y en a presque pas. C'est la cooptation, c'est le népotisme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier, vous l'avez dit dans votre propos liminaire.
C'est le constat.
Et c'est ce qui fait en sorte que notre renseignement ne marche pas. Ayons le courage de l'avouer.
Voilà, avant de vous donner la parole, Monsieur Karl Blagué, excusez-moi, je reviens vers le ministre et conseiller spécial. Lorsque vous avez dit que le service de renseignement a accompagné les éléments de la CPC jusqu'à la porte de Bangui avant de les repousser. Donc, les dégâts qui ont lieu, est-ce que le service de renseignement veut jouer à une stratégie
Ce n'est pas le service de renseignement qui a accompagné les rebelles jusqu'à la porte de Bangui. Les services de renseignement, ils sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Les officiers de police judiciaire, ils sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Ils donnent des informations et nous, au niveau de force commandement, on observe, on regarde, on visualise les drones. Et au moment opportun, on a donné le top pour que les gens, nos militaires et les alliés fassent le travail.
Pourquoi ne pas le faire avant ? Non, excusez-moi, je reste avec vous pour un peu d'éclaircissement, monsieur le ministre. Ouais. Lorsque vous les avez bien vus dans la brousse là-bas, mais vous les avez accompagnés jusqu'à la porte de Bangui, mais il y avait eu quand même des pertes en vies humaines, des civils
autres. Non. Là, on rentre dans d'autres domaines. En province, il y a beaucoup plus de population. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour protéger la population. On les a ramenés jusqu'à PK9. Ils étaient dans la brousse. Ils étaient derrière le kilomètre 12 vers Vodombala, Pindao, Tata, là où il n'y a personne. Et c'est là qu'on les a matés correctement. On les a repoussés.
Mais jusqu'à PK12,
la
même au niveau
formation,
de la barrière,
formation.
PK12,
quand il dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de formation, il se trompe. Lui-même, il dit une chose et il dit le contraire. Mais on les a envoyés dans des pays où il y a des grandes écoles de formation.
Je précise.
Et en même temps, lui, il n'a pas fait son doctorat ici à Bangui. Il a fait son doctorat ailleurs. Plusieurs personnes ont étudié ailleurs parce que nous n'avons pas ces grands établissements ici chez nous pour former les gens.
Et donc, vous le rejoignez dans ces cas-là?
Non, je le rejoins. Mais les gens qui ont fait les renseignements à l'étranger, ils reviennent au pays.
Bon, maintenant, je reste avec vous. Quel est le profil d'un agent de renseignement.
Je n'ai pas à vous dire quel est le profil d'un agent de renseignement. Je suis tenu au
Je ne vous ai pas demandé qui est agent de renseignement, mais le profil, par exemple.
Les agents de renseignement, on les trouve partout. Il y a des agents de renseignement militaire, sécurité militaire, il y a des agents de renseignement de la police, de la gendarmerie, et il y a des agents de renseignement civil.
Mais vous ne connaissez pas. Les centrafricains qui les appellent communément des B2, est-ce que c'est ça? C'est ça là que vous
appelez. Je viens de vous donner le profil des agents de renseignement militaire, civil. Policier, gendarme, civil. Et partout. C'est peut-être vous.
Non, vous ne pouvez pas dire peut-être moi.
Il fait de la divagation.
Si vous êtes coincé, est-ce que...
Non, je ne suis pas coincé.
Est-ce que je suis votre agent de renseignement?
Moi, je suis à l'aise.
Est-ce que je suis votre agent de renseignement?
Les gens qui ont fui ce pays, les gens qui ont commis des crimes et qui ont fui, on les connaît, vous les connaissez tous.
Non.
Depuis 3 ou 4, 5 décennies, ce sont des gens qui ont des complicités avec certains agents de renseignement, si vous voulez, ici à Bangui même. Quand le général Kolimba a quitté le pays, vous pensez que le général Kolimba peut aller comme ça prendre une pirogue, traverser la rivière, tout simplement? Quand Mekaswa est parti, il ne peut pas rentrer dans une pirogue pour traverser la rivière. Donc, ils ont des complicités au niveau de l'armée,
et donc
de
ça
la
veut
police,
dire que le service de renseignement ne travaille pas, n'est pas efficace comme vous l'avez souhaité.
Monsieur le journaliste, Carlos Ghosn a bien quitté le Japon, qui est un pays vraiment en matière de sécurité. Personne n'approche le Japon. Mais Carlos Ghosn a quitté ce pays et pourtant il était mis en examen en résidence surveillée. Il a quitté le pays. N'eût été la vigilance du Liban, il serait venu jusqu'en France. C'est la même chose qui est arrivée à
Obro. Mais est-ce qu'on peut prendre des exemples ailleurs?
Je prends des exemples pour des pays qui sont...
Donc on ne peut pas les dépasser en matière de service.
Voilà.
Je reviens vers M. Karl Blackgay. On vous avait vraiment souffert pour prendre la parole. Sur cette question de profil et de services de renseignement partout, on a tout le monde, comme a dit M. le ministre, dans tous les pays, dans toutes les villes de province, vous verrez qu'il y a des services de renseignement, des agents de renseignement. Mais est-ce qu'on peut palper du doigt la réalité de ce service de nos jours?
Non, écoutez, je vais revenir au sujet. Hein. Est-ce que les services de renseignement ont des failles? Il va falloir préciser. Il y a le renseignement militaire, il y a le renseignement intérieur. Le rôle d'une structure de renseignement, c'est au niveau de la coordination. Et en ce qui concerne le cas de la République centrafricaine, il y a des problèmes au niveau de la coordination. C'est vrai, au niveau des ressources humaines, le profil, ce n'est pas le cas. C'est sur le tas, sauf récemment, on envoie des gens pour les former. Et en plus de ça, il faudrait que le législateur puisse avoir les yeux dessus, dans les autres pays dont vous parlez là. Nous avons les budgets, nous avons les noms, nous avons les noms des dirigeants, nous avons leur mission, et c'est connu. Et quand ça ne va pas, si nous étions dans un état normal, je pense que tous les responsables des services de renseignement auraient dû être auditionnés par une commission. Parce que dans chaque pays, il y a des commissions, défense ou commissaire renseignement, pour les écouter ces différents responsables des différents services de renseignement. Alors moi, de par ma vision, je me dis qu'il y a un problème au niveau de la coordination, parce que je ne sais pas combien de services de renseignement existent en République centrafricaine.
Vous ne pouvez pas le savoir.
Non, mais justement, s'il vous plaît, je ne sais pas combien de services de renseignement existent, quel est le mode de coordination, mais ce que je pense, de par ma vision, souvent il y a des renseignements qui remontent, mais il y a un problème au niveau de la réactivité des politiques et des décideurs. De deux, est-ce qu'on met assez de moyens justement à la disposition de ces différents services? Tant qu'il y a l'opacité, tant qu'on ne voit pas clair, ça va être très difficile. Troisièmement, récemment, la République centrafricaine a signé des accords de coopération avec le Rwanda. Je pense que le Rwanda est un pays reconnu comme tel en matière de renseignement. Mais comme on n'a pas fait assez de communication sur tous les accords que la République centrafricaine vient de signer avec le Rwanda, est-ce que parmi ces accords, il y a des accords de formation de mettre en place une école de formation des agents de renseignement? C'est ça justement la question. Je m'adresse aux politiques, aux décideurs. Donc moi, pour revenir à votre question, je sais qu'il y a des failles dans le renseignement. Beaucoup plus dans le renseignement intérieur, pas au niveau du renseignement militaire. C'est vrai, le renseignement militaire n'est pas parfait, mais c'est beaucoup plus dans le renseignement intérieur. Et vous savez que le renseignement est un couteau à double tranchant. Le renseignement peut être utile pour la République et pour protéger la population, mais le renseignement aussi peut nuire et régler des comptes à des opposants politiques et à des particuliers. Dans tous les pays du monde, le renseignement est un couteau à double tranchant. Donc il va falloir légiférer. Je ne sais pas si nos législateurs, nos députés ont mis en place une loi relative au renseignement et au service de renseignement, parce qu'il y a une certaine opacité à Mondo.
Paul Kassam-Beninga, vous voulez réagir tout à l'heure sur le propos du ministre conseil spécial, hein, qui parle de l'efficacité de ce service dans tout le pays en ce moment.
Non, je commencerai par donner une piste à Karl en disant qu'il y a une direction générale de la coordination du renseignement et de la documentation logée à la présidence. Donc la structure existe. Qui coordonne les renseignements, qu'il s'agit des renseignements de l'intérieur que de renseignements militaires. Cela dit, je ne vais pas faire un jeu de ping-pong avec le ministre Ngwandika, parce que je trouve que parfois il dit des choses tout simplement pour provoquer et je ne rentrerai jamais dans son jeu. Lorsqu'il évoque par exemple la question des gens qui sont formés à l'extérieur, je veux juste préciser ma pensée en disant ceci. Moi, je ne suis pas fier d'avoir par exemple ma thèse à l'extérieur. J'aurais aimé l'avoir ici. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies, les occasions, les opportunités ne s'offre pas à nous. Il en est de même des fils et des filles de ce pays qu'on envoie en Guinée, en Angola, pour faire le renseignement. Moi, je militerais pour qu'on ait une école de renseignement ici. Je militerais qu'on ait une école de renseignement ici. Lorsqu'on a une école de renseignement ici, ça nous permet d'être autonome dans le mécanisme de renseignement. Mais tout à l'heure, quand je disais que le renseignement des spécialistes, Armando, ce n'est pas pour calomnier. Mais c'est pour interpeller. Je vous dis, il y a beaucoup de spécialités. Et ce qui fait en sorte que quand quelqu'un vous dit « je suis de renseignement », ça peut être un spécialiste en crypto-analyse, ça peut être un spécialiste en filiature, ça peut être un spécialiste en l'évaluation des informations publiques et autres. Or, qu'est-ce qu'on observe ici? Tout à l'heure, je parlais du retournement. Pourquoi je parlais du retournement? Vous avez évoqué le cas de ceux qu'on appelle généralement des B2 ou les bureaux par derrière. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, pourquoi on réussit à retourner ces gens-là? Ça veut dire que quelque part, ils sont mal rémunérés. Ça veut dire que les moyens financiers n'ont pas été mis à leur disposition. Parce que lorsque vous faites de la filiature et que la personne qui fait la filiature arrive à confesser, à avouer que je suis en train de faire la filiature, c'est une forme de demande, d'aide. Si je fais la filiature vous concernant et que je vous dis clairement que j'ai reçu mandat, j'ai reçu une mission de vous suivre, de révéler un certain nombre de secrets à votre sujet, ça veut dire que c'est un clin d'œil que je vous fais, ça veut dire que vous êtes en train de me retourner sans pour autant que vous fassiez un effort. Et c'est de ça qu'il s'agit. Très souvent, nous assistons à ce genre de choses. Lorsqu'on me parle de l'efficacité, prenons par exemple l'ancien président François Bozizé. Du temps où il était en exil, même s'il l'est encore de mon point de vue, du temps où il était en exil en Ouganda, comment se fait-il que Bozizé réussissent à rentrer dans la ville de Bangui sans pour autant que le service de renseignement soit au courant? Comment se fait-il que lorsqu'il parle par exemple de l'exfiltration d'Abdou Karim Mekassoua, mais dans un pays sérieux, normal, des têtes vont tomber. C'est lui qui est aujourd'hui à la sécurité, le ministre de la sécurité. Il était à l'époque le patron de renseignement à la présidence lorsque Bozizé pénétrait. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas à être promu à la sécurité. S'il a failli au niveau du renseignement, ce n'est pas au niveau de la sécurité qu'il va mieux faire. C'est lui qui est aujourd'hui patron de renseignement, c'est le général Wanze. Je n'ai rien contre ça, personne. Mais on a vu combien de fois il a failli au niveau de la sécurité. On a vu avec l'histoire du 1er mai, l'histoire de Sidiki qui lui a échappé, ce qui s'est passé à Bambari avec la Jima. Malgré tout cela, lorsqu'il a été remercié du gouvernement, il a été promu patron du renseignement. Et donc, quand je disais que le problème est à la fois d'ordre structurel et d'ordre conjoncturel, il faut tenir compte également de comment on gère le pays. Lorsque le renseignement est sensible, on ne prend pas n'importe qui et on met là-bas. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'ils valent. Et je finis en disant ceci. Finissez. Je suis de ceux qui pensent, et je le dis avec preuve à l'appui, il n'y a pas des gens qui manquent dans ce pays. Il y a des gens qui ont été formés et qui ont la compétence pour faire le renseignement, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la gendarmerie. Responsabiliser ces personnes-là et le problème, de mon point de vue, sera résolu.
Oui, monsieur Fidel Ngwandika, vous aviez fait une lave, vous avez parlé du retour au bercail de François Bozizé et après vous êtes revenu pour dire oui, finalement il est dans Bangui. Est-ce que ce service fonctionne en tant que tel? Parce que c'est lui-même qui a envoyé des gens pour informer la présidence que je suis déjà à Bangui.
Écoutez, quand j'écoute le docteur Kassam-Beninga, il dit la même chose depuis le début. Ils énumèrent les accidents ou les faits qui ont eu lieu à Fatima. Ils parlent de la rentrée de Séléka, de Bozizé qui est venu. Mais ce sont des faits réels. Ce sont des faits qui ne sont pas imputables à la sécurité ou aux agents de renseignement ou aux sécurités du pays.
Mais à qui?
Bozizé a été exfiltré aussi de là où il était pour entrer à Bangui. David Dako n'avait pas été exfiltré.
Bon, On reste sur le fait de Bozizé pour ne pas qu'on échappe à la question que je viens de poser.
David Dako a été exfiltré de la France pour venir prendre le pouvoir. Bozizé, de la même manière, il a échoué. Vous me parlez des faits que vous reprochez à la sécurité parce que vous dites que notre pays n'a pas des centres de formation adéquats. Et en plus, M. Beninga, vous venez de dire qu'il y a des gens qui ont fait des grandes écoles de sécurité. Il faut les responsabiliser et laisser les gens que vous avez cités ici. Mais je vous dis, le président français ou le premier ministre français n'a pas limogé le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense française. Quand Charlie Hebdo a été attaqué plusieurs fois, quand on a vu ce qui s'est passé au Bataclan, quand on a vu un camion qui vient, qui fauche les gens sur la promenade des Anglais à Nice. Ce sont des grands pays. Hein. Et pourtant, vous allez dire que le peuple français allait dire que oui, la sécurité ne marche pas. Non, la sécurité fonctionne. Ce ne sont pas les gens de sécurité qui doivent prendre le fusil pour aller chasser ces gens-là. Les gens de sécurité, ils donnent de l'information. Vous venez de dire quelque chose, je suis d'accord avec vous. Nous avons des agents de renseignement qui appellent leur chef et que le chef ne décroche pas. Ça, au niveau du Conseil de défense de la sécurité du pays, nous avons relevé cela. Des gens appellent pour dire « Attention, il y a là telle chose dans ce coin » et ces gens-là ne répondent pas. Et nous avons déjà pallié à ce problème. Je vous le dis au niveau du pays. Mais la sécurité du pays marche très bien. C'est aujourd'hui, bon. Ah bon, vous dormez sur les deux oreilles.
On ne vit pas dans le même pays.
Hein. Si. Vous êtes bien, vous enseignez à l'université, vous vous levez à 5 heures du matin.
Mais est-ce que la sécurité, c'est pour Bangui? Vous parlez de Bangui?
On parle
actuellement pour toute la République centrafricaine.
Les gens qui ont fui là, et fui d'où? Parce que vous faites allusion à la fuite de Mekasa. Mekasa n'a pas fui de Bambari pour aller là-bas.
Non, je fais allusion à l'insécurité, par exemple, tout autour de Bozoum, tout autour de Boire et à Kouy actuellement. Oui,
nous sommes un pays en conflit. Nous sommes un pays en conflit. Et donc, il y a des bandits partout. Des bandits de grand chemin, des gens qu'on a matés et qui se transforment en guérilla. Et ça, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la sécurité.
D'accord,
nous sommes un pays en conflit et nous faisons tout pour que la quiétude et la paix reviennent en Centrafrique. Et c'est que nous nous attelons à le faire depuis le 30 mars 2016.
Je suis sidéré d'entendre Fidel Mwandika citer en exemple le cas de la France pour justifier nos erreurs, les failles dans nos services de renseignement. Lorsqu'il dit, ce qui s'est passé, l'attentat contre Charlie Hebdo, le ministre de l'Intérieur n'a pas été limogé. Donc, parce que la France n'a pas limogé son ministre de l'Intérieur,
nous devons
en faire pareil. Oui. Donc, si un jour la France limoge son ministre de l'Intérieur, votre exemple témoigne de ce que vous calquez toujours le modèle de la gestion de la chose publique sur le modèle des autres pays. Quelqu'un a failli, il n'a pas été limogé. Vous estimez que c'est un bon exemple. Nous devons en faire pareil. Je vais aller plus loin. C'est Karl qui a cité le Rwanda.
Voilà.
Je vais aller plus loin, ce n'est pas moi. Supportez que je finisse.
Calmez-vous, supportez que Fidel je finisse. Mwandika.
Je vais aller plus loin. Ouais. Lorsque vous citez le cas de la France, mais vous le savez, lorsque la France a été attaquée, on a fait sortir le profil de ceux qui ont attaqué au niveau de la France. Combien de fois des enquêtes judiciaires ont été ouverte ici. Jamais des résultats ont été rendus publics. Malheureusement, je vais citer les mêmes exemples. Quand on a attaqué Fatima, dites-moi, quand celui qui a été commandant, j'ai oublié son nom, à l'époque de Madame Catherine Samba Panza, a été froidement abattu au kilomètre 5. Ce monsieur, on a dit une enquête judiciaire allait être ouverte. Où en sommes-nous? Lemouna, Kundili ont été attaqués.
C'est les mêmes choses que vous dites.
Mais oui, bien sûr, c'est des exemples centrafricains. C'est des exemples qui mettent à nu l'inefficacité de notre service de renseignement. Ce que le service de renseignement fait davantage, c'est la délation. Le fait de dire que tel a fait ceci, tel, pour, soit pour extorquer de l'argent, soit pour nuire à quelqu'un. Et Karl a évoqué ce cas-là aujourd'hui. Je pense que
vous avez été victime de ça.
Lorsque nous aimons ce pays, je ne parle pas de moi, nous parlons en général. Dans, nous sommes dans la généralité.
Monsieur Gwandike, lorsque nous aimons
ce pays, non, il ne va pas jouer à ce jeu avec moi. Il me connaît. S'il fait le jeu de ping-pong, je ferai le jeu de ping-pong. S'il me coupe, je le couperai. Donc ne faites pas ce jeu avec moi.
Non, allez-y.
Donc, lorsque nous aimons son pays, ce pays, à un moment donné, ce n'est pas une question du pouvoir public, de la société civile, de l'opposition, encore moins du parti au pouvoir, mais c'est une question de la vie des Centrafricains et des Centrafricaines. Et ayons le courage de dire en face ce qui ne va pas pour permettre à ce que on puisse changer. Je ne demande pas à ce qu'on puisse relever celui qui est aujourd'hui à la tête du renseignement pour mettre mon parent, mais je demande plutôt à ce qu'on puisse mettre les hommes qu'il faut à la place qu'ils valent. Nous avons des gens qui sont des spécialistes
de
renseignement. Qu'on leur donne les moyens et qu'on leur donne les responsabilités.
Je vous en prie, je vous retire la parole. Je nous invite à écouter l'extrait du discours de Faustin Alcantois Dira, chef de l'État, à l'occasion de la sortie officielle de la 20e promotion des policiers. Il appelle au professionnalisme des porteurs du tenu.
Je voudrais également attirer l'attention des brebis galeuses qui n'ont pas encore suivi la transformation positive de la police. J'entends beaucoup de plaintes de nos concitoyens, surtout des opérateurs économiques, des conducteurs de bus, de taxis et mototaxis, sur des faisceaux d'attitudes contradictoires à la déontologie policière. On signale régulièrement de nombreux cas de rackets, de concussions, d'extorsion de fonds partout sur des barrières illégales et sans véritable contrôle de sécurité. Les ennemis de la paix exploitent cette faiblesse pour faire entrer des mercenaires et des armes de guerre sur le territoire national et même dans la capitale où siègent toutes les institutions de la République. On assiste malheureusement à une résurgence des braquages, de vols à main armée, de viol, de trafic d'organes humains et des tentatives permanentes de déstabilisation des institutions de la République. Par conséquent, j'ai instruit le ministre de la Sécurité et le directeur général de la police de prendre des mesures qui s'imposent pour ramener à l'ordre les brebis galeuses et imposer la discipline.
Voilà, c'était Faustin Alcantois Toadera, président centrafricain, dans le débat politique de Radio Ndékéluka. En écoutant le chef de l'État, certains actes posés par les forces de l'ordre de sécurité ne favorisent pas un climat de confiance entre elles et la population, n'est-ce pas, M. Karl Blaguin?
Bien sûr. Enfin, une fois, le chef de l'État a relevé une triste vérité, une triste réalité, parmi des milliers de réalités. Ok, mais je pense qu'il a parlé en tant que chef, mais est-ce que justement les nouvelles recrues vont appliquer ça? Comme on sait qu'au quotidien, tous les jours, toutes les tracasseries que subissent non seulement les spécialistes du transport en commun, les piétons et autres, et les commerçants aussi, est-ce que ce message sera suivi? Donc il y a un problème de suivi, il y a un problème de coordination. Je reviens dessus. Il appartient justement au directeur général de la police nationale et à son collègue de la gendarmerie, sous la tutelle du ministre de la Sécurité publique, de veiller à ce que, justement, ces brebis galeuses, comme l'a si bien appelé le président Toadera, arrêtent ce genre de comportement. Mais je suis très pessimiste par rapport à ça, Armando.
Oui.
Il y a un problème de coordination et de suivi. Je pense que dans toutes les structures de sécurité, il y a des inspections générales. Je pense qu'il y a une inspection générale de la police nationale, une inspection générale de la gendarmerie nationale. Est-ce qu'il y a un suivi? Je n'en suis pas si sûr. Récemment, les policiers se sont plaints par rapport à leur statut particulier. J'ai appris qu'ils ont justement eu gain de cause. Apparemment, le salaire a augmenté. Je ne sais pas, je n'ai pas encore écouté le décret teinté dans mes oreilles à la radio. Mais apparemment, il y a eu le statut particulier de la police. Je souhaiterais par la même occasion que nos forces de défense et de sécurité, notamment les FACA, qui sont sur le terrain, et qu'on puisse valoriser, revoir à la hausse, justement, ces salaires-là. Si le gouvernement demande des résultats, il faut mettre les moyens. Tout comme au niveau des services de renseignement, mis à part le profil, c'est-à-dire l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, au niveau des ressources humaines, il faut mettre assez de moyens dans ces services, assez de moyens dans les ressources humaines et pour espérer avoir des résultats, Armando.
Oui, monsieur le ministre, conseil spécial, vous avez écouté l'extrait du discours du chef de l'État, Faustin Cantouadéra, sur cette question de confiance, le climat de confiance qui devait régner entre la population et même les services de renseignement. Mais lorsque aujourd'hui ce problème-là se pose, vous pensez que ce service n'aura pas de difficulté pour faire son travail en tant que tel? Parce que c'est la population qui devait aider ce service à bien faire son travail.
Le président de la République a une entière confiance en son armée et aux forces de défense et de sécurité, y compris les services de renseignement. Le chef de l'État a mis en exergue dans son discours le comportement des brebis galeuses, ceux qui donnent des renseignements au CPC, ceux qui demandent de l'argent à la vaillante population,
qui font des raquettes
pour les mécontenter contre le pouvoir. C'est bien connu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est l'opposition. Qui anime ces genres de choses.
Ah non, ce n'est pas normal.
S'il vous plaît. Monsieur Carl Blaguet, vous dites que vous êtes pessimiste. Mais vous êtes pessimiste à vie. Vous ne serez jamais positif. Peut-être que d'ici 3 décennies, ou quand vous serez peut-être au pouvoir, quand l'opposition sera au pouvoir, alors là, vous serez optimiste.
Ah, mais je suis désolé de votre
réponse,
monsieur
le ministre. Et vous viendrez et vous aurez des pessimistes face à vous.
Je suis désolé de votre réponse, monsieur le ministre.
Oui, non.
Je suis pessimiste par rapport à la situation actuelle.
Vous êtes...
Par rapport à mon regard, justement.
Oui, puisque vous vivez au présent.
Mais bien sûr.
Vous n'avez pas de projection.
Donc tout va bien actuellement, monsieur le ministre. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le chef de l'État vient de relever des tares dans son discours.
Vous voyez, j'ai la parole. Je vous dis, l'opposition vit au présent. Mais nous vivons au présent également, mais avec une projection pour l'avenir.
Oui, revenez sur la question tout à l'heure, monsieur Wandika. Vous avez encore
le temps. Non, je vous ai dit que le président de la République a une entière confiance avec son armée.
Mais le président de la République a relevé.
Il a relevé les manquements imputés aux brebis galeuses. Il a été très clair.
Avec les brebis galeuses connues, comme vous l'avez dit, pourquoi ne pas les sanctionner? Quelles sont les sanctions infligées à ceux-là?
Vous n'avez pas écouté ce qui s'est passé au tribunal de grande instance? C'est le début du procès des récalcitrants et des gens qui ne sont pas dans la République. Hein. Vous avez bien écouté. Nous sommes un pays démocratique. Nous ne sommes pas un pays policier. Nous ne sommes pas un pays où règne la dictature. On n'a pas besoin de mettre un policier devant... derrière chaque personne ou derrière chaque personnalité, il y en a 4 ou 5 qui sont aussi inquiétés par la justice pour cette affaire que Mekassoua a fui et vous accusez la sécurité. Vous accusez
non, on la, accuse sécurité. Pas la sécurité.
Si Mekassoua avait été arrêté, au bord du fleuve ou là où il était en train d'être exfiltré, vous allez, vous là, sur ce plateau, dire « Ah, voilà, un État policier !» Vous êtes pessimiste à outrance, y compris vous aussi, monsieur le journaliste.
Ce n'est pas mon rôle.
Oui, c'est votre rôle.
Ce n'est pas mon rôle. Je recadre le débat. N'attaquez pas l'occasion qu'on vous donne, monsieur Wandika.
Parce qu'il a dit qu'il est pessimiste. S'il est pessimiste, et j'ai bien dit que si on avait arrêté Mekassoua, si on l'avait mis en prison, l'opposition allait crier au scandale. Lui, il devrait rester affronter la justice de son pays. Ils sont combien? On leur a retiré le passeport, on leur a remis ce passeport. Il y en a qui voyagent, qui reviennent. Ils sont accusés du même crime que Mekassoua. Et vous allez dire que c'est le service de renseignement qui est faible parce que Mekassoua est parti. Si on l'avait attrapé, vous allez dire non, on l'a attrapé parce qu'on a mis des gens à côté de lui pour surveiller ses mouvements. Non, nous sommes un pays démocratique et la justice est un pilier de la démocratie. Que celui qui se reproche quelque chose doit affronter la justice de son pays avec les avocats, avec tout ce qu'il faut pour que justice... soit rendu au profit du peuple centrafricain.
Vous avez terminé, je donne la parole à vous, M. Paul Cressant Bénégar, sur l'extrait du discours du chef de l'État.
Ce discours contredit tout ce que Fidèle Mouandik a dit autour de cette table. Vous avez tout à l'heure dit que vous dormez bien à Bangui, vous vous levez, vous allez à l'université, vous enseignez, vous vaquez librement à vos occupations. Mais lorsqu'on entend le président de la République, même s'il évoque l'expression « brebis galeuse », mais dit de nombreux cas, m'ont été signalés. Et il parle d'infiltration des mercenaires. Il parle du trafic des armes. Il parle des cas de braquage. Alors, tout ce qui a été cité par le chef de l'État relève de la compétence de la sécurité, d'une part, et du renseignement d'autre part. Et c'est pourquoi je dis tout ce qui a été dit par le chef d'État dans ce discours contredit ce que dit le ministre Rwandika.
Mais le chef d'État a été renseigné, il a été informé, c'est pourquoi il a fait ce discours.
Ah, donc ça veut dire que vous n'avez pas été renseigné et vous ne dites que ce que vous pensez. Voilà. Ça, c'est extrêmement grave.
Le chef de l'État ne s'est pas levé comme ça pour parler.
Mais calmez-vous.
Il y a eu un service de renseignement compétent qui lui a fourni ces renseignements pour qu'il...
Non, mais par exemple, pour le cas de braquage, le chef de l'État n'a pas besoin véritablement d'avoir affaire à son service de renseignement. Ça s'est dit dans les médias et autres. Récemment, lorsqu'on avait débattu et qu'on a évoqué les cas des forces de défense et de sécurité qui sont parfois impliquées dans les braquages, vous avez avoué.
Les brebis galeuses.
Vous avez avoué. Alors, ça, on n'a pas besoin d'un service de renseignement pour en parler. Donc, ça ne relève pas de la capacité, si vous voulez, ça ne peut pas nous permettre de juger de l'efficacité du service de renseignement. Je vous ai dit, il y a certains critères qui peuvent nous amener à juger de l'efficacité d'un service de renseignement. Et lorsque le chef d'État en parle, ça veut dire que en filigrane, il reconnaît que ce service n'est pas efficace. Et lorsqu'on opère déjà un changement au niveau de ce service, ça témoigne également de ce que ce service pose problème. Mais ce que j'ai déploré, c'est que le changement, en fait, c'est de la gesticulation institutionnelle. On a donné l'impression qu'on a fait un changement, mais en réalité, on n'a fait que du surplace.
Aucun service de renseignement au monde n'est parfait, mon ami.
Mais je reste avec vous, vous avez pris la parole. Monsieur Paul Cresson Beniga a terminé ses propos, vous voulez continuer. Mais je reviens vers vous, monsieur Karl Blaguet, sur cette question. Est-ce que c'est la traîtrise ou l'incompétence des agents de renseignement qui expliquent de manquements constatés?
Je reviens, il y a un problème au niveau de la coordination. Il y a une certaine opacité. Apparemment, il existe plusieurs services de renseignement. Les services de renseignement officiels. Il y a un membre, le ministre Mwangika est là, j'espère qu'il va pouvoir nous répondre. Il y a combien de services de renseignement officiels reconnus? Est-ce qu'il y a une loi réglementant justement le renseignement en République centrafricaine?
Est-ce que vous voudrez que M. Ngandika puisse répondre avant que vous continuez? Allez-y, M. Ngandika, à cette question.
Vous savez, il y a eu 1 250 000 centrafricains qui ont été aux urnes pour voter les élus de la nation. Les 1 200 000 et quelques personnes sont tous des agents de renseignement, si vous voulez le savoir.
Comment ça?
Mais j'ai répondu à sa question. Continuez de lui poser d'autres questions.
Ok, Armando, ok.
Est-ce qu'on peut être sérieux? Parce que je ne comprends pas.
Je suis très sérieux.
C'est la réponse, selon vous.
Je suis très sérieux.
C'est la réponse. Hein.
Les motos, les taximans, les gens de bus, les gens qui vendent partout, ils sont tous des agents de renseignement.
C'est qui? Allez-y.
Ok, Armando, pour revenir aux choses sérieuses, hein, j'ai demandé des structures officielles. Bon, bref, nous avons fait un petit tour d'horizon dans l'humour avec le ministre Ngwandika, mais j'aimerais que le peuple centrafricain soit informé du nombre de services de renseignement officiels qui existent. Et au niveau du Parlement, est-ce qu'il y a une loi? Est-ce que le législateur, justement, a voté une loi sur le renseignement?
Vous avez déjà dit ça?
Non, j'ai posé la question. Je ne suis pas encore satisfait.
Mais
justement,
vous posez la question à qui?
Je pose la question aux journalistes à travers vous. Je vous ai posé la question. Vous me dites qu'il y a 1 250 000.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Vous n'avez pas
Monsieur Karl Blaguet. J'ai demandé. Vous-même, vous êtes un agent de renseignement.
Mais lui-même, il sait qu'il ne vous renseigne pas.
Monsieur Beniga Cresson est un agent de renseignement.
Mais comment?
Non, je ne vais pas rentrer dans des détails.
Je vous en prie. On mène un débat.
Je suis très sérieux. Je suis très sérieux ce que je dis là. Lui, Karl Blaguet, avant, il était dans la société civile. Maintenant, il a regagné un parti politique. N'est-ce pas? C'est un agent de renseignement. Je le connais très bien. Est-ce qu'il le sait?
Non, est-ce que vous
l'avez recruté? Monsieur Cresson Beniga est un agent de renseignement. Il le sait, il ne va pas me comprendre.
Bon, maintenant, vous deux, est-ce qu'on vous a recruté dans le service de renseignement du pays? Parce que
Ils ne le diront jamais.
Non, on est dans un débat.
Je suis très sérieux.
On veut être sérieux avec ceux qui nous écoutent.
Je suis très sérieux.
Et c'est mon rôle
moi-même,
de recadrer le débat.
Je suis un agent de renseignement.
Très sérieux avec la population.
Moi-même, Ngwandika Fidèle, je suis un agent de renseignement.
Oui, terminé, monsieur Karl Blaguet.
Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, il faudrait qu'il y ait une clarté parce qu'il y a une certaine opacité dans le fonctionnement des services de renseignement. Manque de coordination et une opacité. Donc, combien de services de renseignement officiels existent? Et est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté une loi relative à ça? Donc, voilà. C'est la grande question.
C'est la grande question, mais nous sommes moi-même incapables parce que je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est lui qui devrait vous donner la réponse, M. Fidèle Ngwandika. Vous dites que vous n'êtes pas du tout satisfait.
Je ne fais pas la divagation.
Je ne suis pas du pouvoir. Je ne suis pas avec le gouvernement. C'est le monsieur.
Vous êtes de la société civile.
Vous êtes conseiller spécial du président de la République et membre du conseil de sécurité
de
nationale.
De défense et de sécurité nationale.
Ben voilà, si M. Kalblagué, vous n'êtes pas du tout satisfait, non. C'est pas moi qui devais vous
demander. Il me demande le nombre.
Non, vous avez terminé.
Ça ne se dit pas.
Non, ça ne se dit pas. Non, vous n'avez pas donné la réponse. Lui, il dit n'est pas du tout satisfait. On écoute, monsieur.
Mais il ne sera jamais satisfait.
Fidèle Ngwandika fait de la divagation. Il accuse tout le monde d'être un agent de renseignement. Je ne sais pas ce qu'il entend par agent de renseignement. Un Centrafricain lambda peut donner du renseignement. Ça peut y arriver.
Ah,
et c'est ce qui est d'ailleurs encouragé dans une république.
Merci.
Lorsque vous êtes, par exemple, vous avez suspecté quelque chose,
mais
vous
ce
pouvez...
n'est pas le rôle du journaliste.
Pas du journaliste. Ouais. Je dis un Centrafricain lambda, mais ce n'est pas tout le monde qui est agent de renseignement. Il y a des gens qui ont été formés pour faire du renseignement. Et nous avons dans le cas qui est le nôtre, deux cas de figure. Nous avons le renseignement militaire, nous avons le renseignement qui vient de l'intérieur. Et au niveau de Bangui, nous avons la coordination dont la direction se trouve au niveau du palais. Aujourd'hui, le ministre Wanze, c'est lui le patron de renseignement. Maintenant, dans les préfectures, dans un mécanisme, dans un fonctionnement décentralisé, nous avons les préfets, nous avons les sous-préfets qui également travaillent sur ces questions-là en partenariat avec les forces de défense.
Mais est-ce que ce n'est pas ce que le monsieur a dit maintenant?
Non, il ne connaît rien. Wanjika ne connaît rien sur ces fonctionnements. Laissez-moi éclairer la lanterne des auditeurs. Il fait de la divagation. Par exemple, quand vous arrivez dans une préfecture, le préfet qui est le patron, qui représente l'administration du territoire, mais le pouvoir public également, lui, il peut coordonner les renseignements. Et par le truchement du ministère, de l'administration du territoire, il peut saisir effectivement l'administration publique. Il y a également le renseignement militaire au niveau de ces préfectures et sous-préfectures parce que nous avons des forces de défense et des forces de sécurité qui sont déployées. Nous avons la police, la gendarmerie.
C'est ce que j'ai dit au début.
Non, calmez-vous, je vous en prie.
Écoutez,
terminez.
Nous avons l'opportunité.
Monsieur Kwantika, je vous retire la parole.
Nous avons l'opportunité.
Vous allez
d'éclairer la lanterne des Centrafricains. Donnez-nous l'opportunité de le faire. C'est extrêmement important. Ces débats également ont un but, c'est celui également d'éduquer et d'informer la population. Et donc, vous voyez, il y a un mécanisme de renseignement. Mais à côté, on peut également sensibiliser la population qui peut alerter les autorités compétentes. Et là, ça demande, il faut qu'il y ait une proximité entre la population, d'une part, et les forces de défense et de sécurité, d'autre part. Lorsque le soldat fait peur à la population ne peut pas l'aider dans la quête du renseignement.
Et c'est ce que le chef de l'État a relevé dans son discours.
Et c'est là où je voulais en venir. Quand le chef d'État évoque ces cas, c'est des cas qui sont avérés. Je finirai par un exemple hier. Hier, je descendais vers 15h, 16h. Je prenais le rond-point Marabena. J'allais vers Miskine. Il y a un camion du Zuru qui faisait la manœuvre à ce niveau. Donc, on était obligé d'attendre. Et il y a un jeune de taxi-moto qui passait. Il n'a pas voulu s'arrêter. Il est passé derrière ce camion-là. Il y avait deux soldats. Un a donné une paire de gifles à ce jeune de taxi-moto et un autre soldat qui interpelle son collègue. Moi, c'est le dernier geste qui m'a beaucoup plu.
C'est l'interpellation.
L'interpellation. Pour faire comprendre à son collègue, tu n'as pas droit à porter la main sur ce jeune de taxi-moto. Même s'il est fautif, même s'il a commis une infraction. Et dans le cas d'espèce, ce n'était pas une infraction. Vous voyez, nous avons deux cas de figure. Voilà un autre soldat qui cherche à avoir un rapprochement avec la population et un autre, de par son comportement, fait en sorte que la population peut prendre du recul. Et demain, la population, lorsqu'il y a une nouvelle arrive, cette population peut avoir peur. Et lui, le ministre Ngwandika, il a évoqué ce cas ici pour dire que parfois, le relais entre la population et même certains agents de renseignement sur le terrain et le commandement pose problème. Et tout ça, il faut revenir sur
cela.
Donc,
c'est le
pour
climat
corriger.
De confiance que le président a relevé dans son discours, M. Kalblagué, qui devrait être mis en application par les forces de l'ordre elles-mêmes et aussi les autorités pour permettre aux services de renseignement de fonctionner comme il se doit.
Oui, effectivement, Armando. Vous savez, il faudrait que le pouvoir apprenne à établir une confiance entre l'armée et la population. Parce que de nos jours, quand vous êtes quelque part, vous voyez deux BJ-80 débarquer automatiquement et que la foule soit en confiance, le premier sentiment, c'est la peur. Ah, ils sont venus prendre qui. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un climat de confiance entre nos forces de défense et de sécurité et la population. Et notamment, je vais revenir sur ce que j'ai dit, sur nos services de renseignement, entre nos services de renseignement et la population. Il faudrait qu'il y ait une clarification au niveau du fonctionnement, du budget et autres missions des services de renseignement, que cela soit légiféré pour que la population soit au courant. Et alors, il y aura une certaine confiance entre la population et les différents services de renseignement, y compris avec nos forces de défense et de sécurité. Et la population, je vous assure, pourra collaborer justement avec tous ces services, Armando.
Quelles sont les stratégies mises en place pour gagner la confiance de la population afin que ce service de renseignement que d'aucuns le disent ici, qui parle de méfiance, de déviance constatée dans ce service, puisse être réglé, monsieur le ministre conseiller?
La population centrafricaine vit en symbiose avec ses forces de défense et de sécurité. Cette population aime son armée, aime sa police et aime la gendarmerie. C'est pourquoi nous vivons une quiétude aujourd'hui au niveau de la nation. Voyez-vous, il y a eu plusieurs recrutements au niveau des forces et des défenses de sécurité de la République centrafricaine. Il n'y a jamais eu un tel recrutement pendant les régimes qui ont précédé le régime de président Touadéra. Et donc, quand je disais que les 1 250 000 électeurs qui forment l'électorat centrafricain, je vous dis que toutes ces personnes, cette vaillante population, travaillent pour renforcer la sécurité du pays. Et je le redis encore, vous-même, vous êtes un agent de renseignement ici au sein de Ndekeluka. Carl Blagué est un agent de renseignement.
Ce n'est pas le travail des journalistes de faire un renseignement pour vous.
Et le plus grand agent de renseignement au niveau de la société civile, c'est le docteur Christian Beninga ici présent.
Pourquoi vous le dites? Est-ce que vous pouvez éclaircir davantage?
Mais vous le savez très bien.
Non, je ne le sais pas.
C'est ça.
Si je le sais, je ne le sais pas.
Tant que nous n'avons pas un service de sécurité efficace, le pays ne marche pas.
Et donc, Radio Ndekeluka, si qui diffuse les informations, permet à vous, au niveau du gouvernement, d'avoir des informations sur le pays. C'est ce que vous nous appelez, c'est l'agent de renseignement pour vous, c'est
non,
ça?
Non, vous venez auprès de nous pour recueillir les informations afin de donner à la population. Et nous, qui cherchez les informations
auprès. Et nous cherchons les informations à l'intérieur du pays.
Ces renseignements-là, ces informations que vous donnez à la population, ce sont les agents de renseignement qui vous le donnent. Vous donnez votre téléphone,
non,
vous
dites
quelqu'un qui ne veut pas. Qui ne veut
ce
pas.
Sont nos correspondants.
Non, non,
il y a des appellations différentes.
Il y a des correspondants, mais il y a des personnes qui ne veulent pas décliner leur identité.
Vous parlez des auditeurs, de nos sources d'informations.
Et voilà, ce sont vos sources d'informations. Ce sont vos agents de renseignement qui vous donnent des renseignements sans pour autant décliner leur identité.
C'est moi et information.
Oui, oui.
Et même si vous appelez quelqu'un au niveau
de l'arrière-pays, qu'ils donnent.
Vous appelez quelqu'un au niveau de l'arrière-pays et qu'il vous donne une information, la personne vous renseigne. On parle du renseignement, mais ce n'est pas le même renseignement militaire ou le renseignement fait par les forces de sécurité. Il faut préciser les choses.
Non.
Ne faisons pas de l'amalgame.
Non, je ne fais pas de l'amalgame. Quand quelqu'un appelle Ndekeluka pour dire, voilà, il a vu une colonne de rebelles se diriger vers telle préfecture super armée. Ça, ce sont des renseignements militaires, ça, monsieur.
C'est une information donnée. C'est une information. Pour la radio de Ndekeluka,
c'est une information. Renseignement, c'est Ndekeluka qui donne l'information. C'est Ndekeluka qui donne l'information. Vous avez affaire à un professionnel
communication. Nous ne sommes pas militaires ici, nous ne sommes pas une station militaire.
Nous ne jouons pas à ce jeu-là.
Nous ne sommes pas une radio militaire. Je vous en prie.
Nous ne confondons pas le rôle. Ce n'est pas du renseignement militaire. C'est une information relative à une situation qui peut être rapportée à l'aspect militaire. Mais ça n'a rien à voir avec un renseignement militaire. Le renseignement militaire est fait par le militaire. Le renseignement de l'intérieur est fait soit par la gendarmerie, soit par la police.
Les renseignements civils sont faits par les civils.
Non. C'est de l'information.
Bon, c'est la fin de ce débat politique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce débat politique consacré aujourd'hui au service de renseignement de la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons parlé des avantages, de l'utilité, des failles constatées aussi de ce service ici en Centrafrique. Merci à vous, monsieur Fidel Gwandika, conseil spécial du chef de l'État et membre du Conseil de sécurité et de défense de la République centrafricaine.
Salutations à la population de Mongumba.
Merci aussi à vous, Carl Blagué. Vous êtes secrétaire national à la communication, porte-parole du parti Marche pour la démocratie et le salut du peuple MDSP. Merci d'avoir pris part à ce rendez-vous.
Merci Armando.
Et merci à Paul Cressan Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC, docteur en sciences politiques. Merci.
Merci Armando.
À la partie technique, c'était donc le service de Guy Rémy Amenendi. Armando Nguendi, c'est bien moi. Rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Au revoir.